Le haut-commissaire Louis Lefranc était l'invité du magazine Transparence ce midi. Il a notamment confirmé que la situation se normalisait, mais qu'il restait des points de tension. L'enquête sur les commanditaires présumés de l'insurrection du 13 mai se poursuit. Rocco Amitan et Gilbert Thuénon, notamment, ont été interrogés. L'ADEME a adressé à la mi-journée un bilan de la semaine de l'écomobilité qui s'est déroulée fin septembre. Une semaine pour s'essayer à des modes de transport plus verts. De son côté, la commune de Dumbéa a lancé hier une nouvelle application mobile, Dumbéa et moi. Mais à quoi sert-elle? Réponse dans ce journal. On fera également le tour du programme festif avec le vide-grenier, le loto de la Capa à Nouméa, mais aussi la fête du Bossu Doré à Moindou. Et puis on parlera sport pour terminer ce journal, l'agenda du week-end avec notamment du football, du rugby et du tennis en métropole, mais aussi du trail, du padel et du golf sur le territoire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Nous sommes encore à la veille d'un long week-end de 3 jours. Lundi 11 novembre sera en effet un jour férié pour commémorer l'armistice qui mit fin au combat de la Grande Guerre entre la France et l'Allemagne. Plusieurs cérémonies de commémoration seront organisées à cette occasion. Un long week-end qui sera également marqué par l'arrivée sur le territoire du président du Sénat Gérard Larcher, de la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet. Ils arriveront dimanche soir. Leur programme définitif n'a pas encore été rendu public, mais on sait que l'un des temps forts de leur visite sera le discours qu'ils prononceront au Congrès au cours d'une séance solennelle mardi matin à 8h30. Mardi après-midi, ils effectueront une visite au Mont d'Or. La veille, lundi 11 novembre, ils passeront une partie de la journée en province nord. C'est d'ailleurs à Koné, à 13h lundi, qu'ils participeront à la cérémonie de commémoration du 11 novembre. Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet donneront une interview avant leur départ mercredi soir. Près de 6 mois après le déclenchement de la violence insurrectionnelle qui a débuté le 13 mai, le haut-commissaire était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence et il s'est livré, Jean-François Baudin, un large tour d'horizon de la situation.
En commençant par l'ordre public, on constate depuis plusieurs semaines une amélioration progressive des conditions de sécurité. Mais le haut-commissaire relève qu'il reste des points de tension. À Saint-Louis d'abord, même si sur la RP1 le risque existe, mais qu'il n'a jamais été aussi faible, déclare Louis Lefranc en évoquant le dispositif de sécurité mis en place. Dans un climat de normalisation générale, il existe aussi des tensions, notamment dans certaines communes de la côte Est et sur certains sites miniers. Et pourtant, le couvre-feu a été assoupli et il aura vocation à être levé, indique Louis Lefranc.
On aura forcément une levée du couvre-feu, on l'aura. Les élus sont très attachés, je pense au maire en particulier, au maintien du couvre-feu. Le couvre-feu, ce n'est pas une mesure générale, unilatérale, qui intéresse l'ensemble du territoire calédonien. C'est une mesure qui peut être différenciée selon les communes, selon certains secteurs. On peut faire tout cela. Moi, je reste sur une mesure de portée générale, parce que je pense qu'elle est plus facile à appliquer et à contrôler. Donc, j'en suis là et les conditions petit à petit se réunissent pour la levée du couvre-feu. Je sais que lorsque le couvre-feu sera levé, c'est une information qui aura son retentissement certainement au-delà des limites de la Nouvelle-Calédonie. C'est une nouvelle qui aura un retentissement national. Je ne peux pas vous dire autre chose. Quand les conditions seront totalement réunies, alors c'est pas moi qui décide seul à savoir si les conditions sont réunies ou pas. Je le fais bien évidemment avec les élus, mais surtout avec les responsables des forces de l'ordre, police et gendarmerie nationale. Et c'est avec eux que cette mesure sera levée.
Le haut-commissaire qui souligne que l'interdiction de la vente et du transport d'alcool produit des effets, notamment sur la baisse de la mortalité routière. Il précise aussi qu'il sera amené à lever les interdictions de rassemblement. Et dans ce contexte, les forces de l'ordre sont encore très nombreuses sur le territoire.
Aujourd'hui, j'ai encore 30 escadrons de gendarmerie mobile, ce qui est énorme pour un territoire de 270 000 habitants. C'est énorme. Il y a aussi les gendarmes d'intervention du GIGN, il y a les policiers du RAID, il y a aussi ceux qui sont spécialisés dans des missions d'observation, notamment de nuit, dans les secteurs de vigilance dont je vous ai parlé. Donc il y a tout un dispositif très important qui va rester ici, en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à nouvel ordre, même s'il y a des besoins en métropole. Parce que chacun est conscient que même s'il y a un retour à la normale, ça reste, de mon point de vue, très fragile. Il y a des braises. Il y a des braises ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis il y en a qui se sont spécialisés pour souffler sur les braises. Eh bien, à cela, je dis attention. Attention, si parmi eux il y a des commanditaires, comme je vous l'ai dit, on ira les chercher un par un.
Le haut-commissaire interrogé sur les critiques qui sont faites à l'État, considéré comme responsable de ce qui s'est passé le 13 mai parce qu'il n'a pas assuré l'ordre public, il se livre à une mise au point.
Je ne connais aucun territoire français qui est calibré pour faire face à une insurrection. On a eu à faire face à une insurrection. Quand vous me donniez tout à l'heure le nombre de 10 000 émeutiers, peut-être 10 000, mais peut-être beaucoup plus. C'est une estimation que nous avons faite. Pour faire face à un volume de 10 000 émeutiers, il n'y a aucun territoire de la République qui est capable de régler le problème en 48 heures ou en une semaine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il a fallu faire venir des forces. Donc le chef de l'État avait donné pour instruction au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de l'époque qu'il y a un envoi immédiat et massif de forces. C'était ma demande pour justement être en mesure de faire face à tous ces émeutiers qui ont agi essentiellement dans le Grand Nouméa en faisant tous les dégâts que malheureusement les Calédoniens ont subis et qui a plongé beaucoup de familles dans la misère.
Louis Lefranc rappelle aussi que la sécurité civile a été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Il y a donc une responsabilité partagée, dit-il, mais il tient à insister sur la question de la culpabilité.
On est responsable. C'est vrai, mais la responsabilité, elle est partagée. On est bien d'accord. La culpabilité, c'est une autre chose, c'est une autre affaire. Nous, on n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Qui a fait ça? Les 10 000 émeutiers dont nous parlions. On n'en parle pas beaucoup, à mon avis, pas assez. Ceux qui ont affronté les policiers, ceux qui les ont blessés, ceux qui l'ont tué. Le premier mort, c'est un gendarme mobile, M. Molinari, là. 22 ans, pont de la Coulée, commune du Mont-d'Or. Il n'y a pas eu 11 victimes, hein, comme je l'entends de part et d'autre. Il y en a eu 13, il y a eu deux gendarmes. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Tout le monde sait d'où ils sont, où ils sont, qui ils sont. Leur responsabilité, c'est la leur. C'est eux qui sont coupables de cela. Et c'est pour ça que des investigations judiciaires sont actuellement en cours. Pour tous ceux qui ont été interpellés, on sait qui c'est et on remontera jusqu'au commanditaire.
Le haut commissaire interrogé aussi sur les aides de l'État. Il rappelle qu'il y a eu une aide immédiate de 50 milliards de francs, soit 400 millions d'euros, et qu'il y a encore besoin de 30 milliards supplémentaires pour aller jusqu'à la fin de l'année. Cela va passer par la signature d'une convention.
Un fléchage va être mis en place pour novembre-décembre pour la province sud, pour les communes du Grand Nouméa, qui sont évidemment de très loin les collectivités les plus touchées. Donc tout ça, on le met en place. Ça va être adossé à une convention que je devrais signer avec le président du gouvernement. C'est très important qu'elle soit signée. Ce sont les 250 millions d'euros qui manquent, donc les 30 milliards de francs pacifiques, pour répondre aux besoins d'urgence identifiés pour le mois de novembre et le mois de décembre. Donc il y a des petites, j'allais dire petites parce qu'elles ne sont pas très importantes, conditions qui sont posées. Il y a une conditionnalité sur un léger relèvement de la CSS, de la TGC et un abaissement de la valeur du point d'indice.
Au total, ce sont 650 millions d'euros qui auront été injectés dans l'économie calédonienne, souligne le haut-commissaire qui affirme que les modalités de remboursement des prêts et avances peuvent relever de négociations ultérieures. Enfin, le haut-commissaire a évoqué la prochaine visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, qui arrivent dimanche. Il souligne l'importance du déplacement de deux personnalités d'un tel niveau. Ils vont rencontrer beaucoup de gens, entendre des avis. Ils viennent aussi constater où se positionne le cursus de la réconciliation, déclare Louis Lefranc. Ils peuvent également présenter un calendrier de rencontres, indique le haut-commissaire, mais tout dépend de ce qu'ils entendront et ils attendent beaucoup de cette visite.
Ce qui va leur être dit sera très important. S'ils repartent de la Nouvelle-Calédonie en ayant uniquement entendu des personnes, soit qui veulent en découdre, soit dont les avis sont totalement divergents, qui paraissent irréconciliables, je dirais que ce n'est pas un bon signal qui va être donné. Vous parliez tout à l'heure d'un retour à la normale. Je pense qu'il est grand temps de revenir un peu à la normale, d'avoir du bon sens, de remettre cette Nouvelle-Calédonie sur les rails, d'avoir des idées pour le faire, c'est normal, même si ce ne sont pas toujours toutes convergentes, mais de faire preuve de bonne volonté, de vouloir, après ce qui s'est passé, se réconcilier, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ici, on a évité une guerre civile. Et je rends grâce à tous ceux qui ont des armes et qui ne les ont pas utilisées, je leur rends grâce de ne pas l'avoir fait. Parce que ce serait un autre bilan ici, en Nouvelle-Calédonie.
De toute façon, il faut sortir de cette situation, conclut le haut-commissaire, quand on lui demande si, selon lui, un accord global est possible.
Je pense que la population calédonienne a besoin d'être rassurée. Et donc, la responsabilité, elle est lourde. Elle est lourde pour l'État, lourde pour les Calédoniens et leurs élus. C'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, la question que vous posez. C'est quoi l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Là, il est subordonné à un accord. Il n'y a pas le choix. Il va falloir signer un accord. Et cet accord, il va falloir le construire, et le construire intelligemment, et le faire de façon équilibrée. Chacun ne veut perdre la face, j'entends, mais les familles calédoniennes sont loin de tout ça. Ce qu'elles veulent, c'est un avenir constructif pour leur famille, pour ceux qui ont perdu leur emploi, c'est retrouver leur emploi. Pour celui qui a une entreprise, pouvoir la développer. Pour ceux qui sont à la tête de collectivités, ne pas avoir l'angoisse de voir leurs infrastructures publiques qui sont nécessaires à la vie d'une collectivité, je pense par exemple aux écoles, être détruites. Il faut reconstruire en fait ce territoire. Et donc votre question, c'est ça. Ce n'est pas l'État qui va le faire seul. Ce sont les élus calédoniens qui doivent se retrousser les manches et pouvoir en parler sereinement et rapidement pour en sortir.
Une interview du haut-commissaire Louis Lefranc dans Transparence qui sera rediffusée dimanche soir juste après notre édition 17h45. Elle est disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Au chapitre politique, l'UPM réunit son congrès à Poum. Les délégations sont attendues ce soir pour un congrès qui se déroulera samedi, donc demain et dimanche. Le Palika réunit de son côté son 49e congrès à Calagomène. Et il sera essentiellement question des discussions sur l'avenir, explique l'un des porte-parole du Palika, Judicaël Séléphène.
Alors, essentiellement, le cœur de ce congrès, ça va être la négociation pour l'accession à l'indépendance. Donc on sera amené à réfléchir, à positionner comment le parti envisage de réussir ces négociations et comment il actionne le levier institutionnel pour arriver à son objectif d'accession à l'indépendance et comment aussi il mobilise le terrain toujours pour ce même objectif.
Le 49e congrès du Palika s'ouvre demain matin et se poursuivra jusqu'à dimanche. En revanche, on a appris que l'UC, qui devait réunir aussi son congrès ce week-end, a annoncé qu'il était reporté de 15 jours et qu'il aurait lieu à la tribu de Mia à Canala. De son côté, la commission permanente du Congrès réunissait ce matin à fixer la date d'ouverture et la durée de la seconde session administrative de l'année 2024. La délibération adoptée à l'unanimité stipule que cette session s'ouvrira le 19 novembre pour une durée de 2 mois, c'est-à-dire qu'elle se refermera le 19 janvier 2025.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, étant donné la situation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie, pensez-vous que plusieurs collectivités calédoniennes devront être placées sous tutelle de l'État ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 75% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits de la victoire de Donald Trump. Ils sont 25% à dire à l'inverse qu'ils ne sont pas satisfaits. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 17h59, on marque une courte page de publicité avant d'évoquer notamment l'enquête sur les commanditaires présumés de l'insurrection du 13 mai dernier.
Démonté dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
C'est le marché de Mamie ce dimanche 10 novembre de 8h à midi sur la place de la mairie de Farino. Vous y trouverez tous les produits du terroir, confiture, achar, sirop, charcuterie locale, miel, vanille, de belles plantes, des produits vivriers, choucanac, plants d'hiver, crabes, gâteaux maison, bonbons, des produits bio et originaux que vous dégusterez avec plaisir. Pour vos cadeaux de fin d'année, le coin artisanat local. Sans oublier le café et la restauration pour les pique-niques sur place ou en bord de rivière. Bref, on vous attend avec vos glacières et vos cabas au marché de Mamie ce dimanche à Farino.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal est au fichu.
Une évacuation médicalisée par hélicoptère sur un navire scientifique. Le COSNC, Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage, a été informé mercredi de l'état de santé préoccupant d'un plongeur de l'expédition scientifique du navire Amborella aux îles Chesterfield, à plus de 500 km de la Grande Terre. Martin Blanchard, le directeur du COS Nouvelle-Calédonie.
Alors hier a eu lieu une évacuation médicalisée concernant un plongeur du navire Amborella, qui faisait face à un état de santé qui nécessitait une évacuation. Donc dans le cadre d'une expédition scientifique dans les îles Chesterfield, le navire Amborella a signalé l'état de santé préoccupant d'un de ses plongeurs. Et suite à une régulation médicale, il a été requis une évacuation de cette personne pour être prise en charge à terre. Et donc pour procéder à cette évacuation, il a fallu coordonner à la fois le ralliement du navire vers la Grande Terre et ensuite son évacuation par un moyen qui a été mis en œuvre par les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait d'un hélicoptère Puma de l'armée de l'air. Et donc l'évacuation du patient s'est faite à 280 km des côtes au large de Koumak.
Le plongeur a ensuite été transféré au Medipol. L'enquête sur les commanditaires présumés de l'insurrection du 13 mai se poursuit. Des enquêteurs de la sous-direction antiterroriste sont de retour sur le territoire et ils ont investi les locaux de la caserne Meunier, ont entendu également plusieurs responsables de l'UC, dont Roque Wamitan et Gilbert Thuénon, Jean-François Baudin.
Oui, ces enquêteurs sont venus pour poursuivre les auditions dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 22 juin et qui vise la CCAT. L'objectif est de déterminer les niveaux de responsabilité dans les violences qui ont éclaté en mai. Après les militaires militants de terrain. Les auditions touchent désormais la sphère politique. Rocco Mitant et Gilbert Huyénon ont donc répondu aux questions des enquêteurs en début de semaine. Rocco Mitant déclare que cette audition s'est tenue à la demande de la défense et qu'il a répondu aux questions pendant 3 heures. Pascal Sawa, le maire de Wailou, a lui aussi été entendu. Selon nos informations, ils ont été entendus libres. D'autres personnalités politiques pourraient suivre. La sous-direction antiterroriste qui continue aussi de s'intéresser aux référents de terrain de la CCAT. Deux d'entre eux auraient d'ailleurs été placés en garde à vue, selon nos informations. Garde à vue qui pourrait déboucher sur une mise en examen.
Judiciaire, toujours, c'est une année exceptionnelle en Nouvelle-Calédonie. Ce matin, s'est ouverte la seconde session d'assises de l'année. Il s'agit de la dernière, alors qu'habituellement, 3 sessions par an sont organisées. Les émeutes du 13 mai ont chamboulé tous les secteurs et la justice ne fait pas exception. Le traitement des affaires criminelles a donc pris un retard de quelques mois. Les précisions de Philippe Faisandier, avocat général près de la cour d'appel de Nouméa.
C'est une année qui a connu des troubles importants et qui ont impacté le fonctionnement de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, puisque la session du mois de mai-juin a été annulée et en fait reportée. Ce sont les affaires de mai-juin que nous jugeons à partir de mardi prochain. Bon, les affaires criminelles sont toujours des affaires graves, puisque les peines minimum encourues sont de 15 ans de réclusion criminelle et de la perpétuité pour la peine maximale. Donc il arrive assez régulièrement que des affaires de cette gravité soient examinées par la cour d'assises. Donc je dirais que cette session ne détonne pas particulièrement par rapport aux autres. L'année prochaine, nous avons d'ores et déjà fait un planning pour au moins le premier semestre. Ce sont des affaires qui, effectivement, auraient pu être jugées en 2024, mais la question ne s'est même pas posée.
Et là, donc l'année prochaine, 4 sessions devraient être organisées pour rattraper le retard pris à cause des exactions. Ces 3 prochaines semaines, les jurés jugeront 9 affaires criminelles, 4 affaires de viol et 5 pour atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'une personne. La première affaire débutera mardi et non lundi, qui est le 11 novembre, je le rappelle. Les jurés devront se pencher sur un cas de viol incestueux et d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Réduire son empreinte carbone en privilégiant des modes de transport plus verts. C'était l'objectif de la semaine de la mobilité qui s'est déroulée du 16 au 22 septembre sur le territoire. L'agence de la transition écologique, l'ADEME, dresse un bilan. Charlotte Coulson.
150 kg d'émissions de CO2 évitées en province nord. Cela représente 1000 km parcourus au cours de la semaine en utilisant des modes de transport doux, que ce soit la marche à pied, le vélo ou le covoiturage. L'objectif était pour les entreprises, les associations ou les collectivités de s'essayer à des moyens de transport plus écologiques. D'autres initiatives ont vu le jour ailleurs sur le territoire. L'association Droit au vélo a par exemple organisé un festival de films. Le vélo fait son cinéma. Et pour clôturer cette semaine de la mobilité, la Chambre de l'agriculture et de la pêche a signé la charte de l'écomobilité de l'ADEME. Une adhésion qui implique pour CAPNC de repenser l'utilisation des transports. Pauline Merlet est responsable du pôle alimentation et développement durable à la Chambre de l'agriculture et de la pêche.
Alors c'est important pour la Chambre de rejoindre la charte parce que c'est un certain nombre d'actions qu'on met en place depuis un moment. Par exemple, on a développé depuis un moment déjà le covoiturage, donc les collègues sur les différents sites se tiennent informés de leurs déplacements et dès que possible, mutualisent les véhicules. On a des parkings à vélo sur certains sites et puis aussi des douches. C'est vrai que quand on fait du vélo et qu'on arrive et qu'on est un peu chaud, on est content d'avoir la petite douche et puis d'être frais pour démarrer la journée de travail. Et puis on a aujourd'hui aussi, depuis un certain temps déjà, pris des réflexes de visioconférence. On a vu avec des nouvelles personnes qui intègrent la Chambre qui sont ravis de voir toutes les installations qu'on a mises en place et qui, du coup, s'ils le souhaitent, adoptent rapidement ces pratiques-là.
Une démarche importante pour l'ADEME puisque le secteur des transports est le 2e plus gros émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire. C'est face à ce constat que l'agence de transition écologique, accompagnée de l'agence calédonienne de l'énergie, a mis en place des navettes maritimes entre le port Moselle, Nouville et Nimbo. De juillet à octobre, ce sont près de 6000 personnes qui ont fait usage de ces bateaux. Un premier test qui mènera, comme l'espère le directeur adjoint de l'ACE, Jean-Christophe Rigoual, à des rotations pérennes, surtout entre le port Moselle et Nouville.
Alors le bilan est positif dans le sens où effectivement on a pu transporter à peu près 6000 passagers sur une période de 3 mois. On est très satisfait du trajet sur Nouville puisque c'est le trajet qui est le plus probant par rapport aux besoins pendulaires dans les deux sens. C'est-à-dire que le premier bateau qui était à 7h30 était plein, on a même dû laisser des passagers sur le quai et il était aussi plein sur le retour. Donc on voit bien qu'on a ce besoin sur Nouville. Ce qu'on porte aujourd'hui, l'étude qu'on porte avec la CCI, qu'on aimerait bien voir émerger, c'est pour la rentrée 2025 avec l'université avoir une proposition expérimentale sur le fameux 30 passagers moteur électrique sur le Moselle-Nouville.
Et même si la semaine de la mobilité est terminée, les acteurs du secteur continuent de se mobiliser. Le 16 novembre, la bourse au vélo revient sur la place des Cocotiers. L'occasion de vendre un vélo qui dort dans le garage ou d'en faire l'acquisition. Rendez-vous de 9h à 15h le samedi de la semaine prochaine.
Un outil pour alerter les jeunes sur les cyberviolences, le cluster comité 3E, dispositif du vice-rectorat qui vise à lutter contre les discriminations de genre, lance le cyberviolentoscope en Nouvelle-Calédonie, Charlotte.
Et oui, certains connaissent peut-être déjà le violentomètre, une échelle qui classe de vert à rouge les comportements plus ou moins violents que l'on peut subir dans une relation. Eh bien, le cyberviolentoscope s'en inspire fortement, mais cible, lui, les cyberviolences. Par exemple, une relation est saine lorsque les vidéos intimes ou les nudes que l'on partage sont supprimés après une rupture. Au contraire, il faut s'alerter, voire se protéger lorsque l'on diffuse des photos ou des vidéos intimes sans consentement. En bref, un outil développé par le comité 3E qui permet aux jeunes, mais pas seulement, de se rendre compte des comportements dont on peut parfois être victime. Le cyberviolentoscope a pour vocation d'être largement diffusé. Véronique Mollo est la présidente fondatrice du comité 3E.
Il y a différentes étapes qui sont clairement identifiées, qui doivent leur permettre de comprendre s'ils doivent faire appel à une aide extérieure, s'ils sont en danger et auprès de qui justement ils doivent s'adresser. On a réuni les principaux partenaires qui travaillent sur le volet des relations affectives et sexuelles pour que justement on puisse prendre la mesure de cet outil, le diffuser très largement auprès de tout notre réseau, le vice-rectorat, SOS Écoute, SOS Violence, dans l'université, dans tous les lieux où il y a des rencontres potentielles et en particulier des rencontres entre jeunes.
Le cyberviolentoscope, un outil pédagogique lancé à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école qui s'est déroulée hier.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Et la commune de Dimbéa a lancé hier une nouvelle application mobile Dimbéa et moi qui propose plusieurs fonctionnalités. Elle permet de se repérer dans la ville, de suivre son actualité, d'être alerté sur les événements à venir, mais aussi de faire des signalements. Une application pilotée par Elia Ewing, conseiller délégué en charge du développement numérique à la mairie de Dimbéa.
Cet équipement Dimbéa et moi, c'est une application qui permet de faire des signalements simples et rapides qui vont être transmis aux différents services. Et ce traitement, il va être traité et dispatché en interne sur les directions dédiées. Alors, plusieurs types de signalements peuvent être effectués avec cette plateforme numérique, notamment sur des signalements de soucis d'éclairage public, dépôts sauvages, par exemple, de déchets ou de packs d'égouts manquants. Alors, effectivement, cet outil permet la géolocalisation aussi des signalements. C'est-à-dire que quand les personnes qui veulent signaler des problématiques au plus près de chez eux peuvent faire un signalement et en même temps être géolocalisées pour que ce soit plus simple et plus rapide pour les services.
Et les usagers peuvent également prendre des photos et faire une courte description du signalement. L'application est disponible depuis hier sur toutes les plateformes de téléchargement iOS ou Android. Suite à un problème technique, les rotations du Betticho continuent d'être modifiées depuis le 31 octobre dernier. Et suite à une avarie moteur, les rotations vers l'île des Pins et les îles Loyauté ont dû être réorganisées. Sudil informe que, compte tenu des contraintes actuelles de réparation, les ajustements de programme se poursuivent jusqu'au dimanche 1er décembre inclus. Les plannings des rotations du Betticho sont à retrouver sur le site internet www.betticho.nc. Une nouvelle étape dans le rapprochement entre la Chine et les îles Salomon. Les deux pays viennent de signer une convention qui permet aux ressortissants de chacun de ces pays de se rendre dans l'autre sans aucun visa. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cet accord sur l'exemption mutuelle de visa pour les citoyens titulaires de passeports ordinaires, c'est son nom, a été signé à Honiara par l'ambassadeur de Chine aux îles Salomon, Kai Weiming, et le ministre salomonais des Affaires étrangères, Peter Chanel Agovaka, en présence du premier ministre de l'archipel, Jeremiah Manele. Le diplomate chinois a déclaré que cette exemption de visa, je cite, « favorisera davantage la coopération et l'amitié entre Pékin et Honiara ». Jeremiah Manele a estimé de son côté que la signature de cet accord favorisera les échanges culturels et renforcera la compréhension mutuelle entre les deux nations. Elle va aussi permettre à nos citoyens de découvrir la culture chinoise, a-t-il ajouté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Les 18h passées de 12 minutes sur Radio Rythme Bleu, on marque une dernière page de publicité avant de parler dans ce journal festif et sportif.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Léo Fichou.
Et oui, le programme festif, c'est d'abord l'ACAPA qui organise et accueille dans ses murs du Faubourg Blanchot de 7h à midi. Demain, un vide-grenier suivi d'un loto. Les précisions de sa présidente Liliane Condoumi.
Ça va être encore une journée ludique pour l'ACAPA. Il va y avoir déjà un vide-grenier samedi matin, directement sur le parking de l'ACAPA, de 7h à midi. Et ensuite, de 13h à 17h, on fait un loto, le dernier loto de l'année. Il y aura une vingtaine de parties à 100 francs, donc c'est intéressant. La Kine, ça sera un gros panier d'aménagères. Ça, ce sont les gens qui nous ont demandé des paniers d'aménagères, parce que vu que tout a augmenté, donc on aura 5 parties à 200 francs et une partie à 300 francs. Ça sera pas plus cher. Puis en plus de ça, on a quand même des jolis petits lots à gagner. Donc, comme on fait des parties pas chères, eh ben, il faut venir. Venez vous amuser et puis il y aura une bonne ambiance et tout le monde sera content. Ben, l'objectif de cette journée, c'est de récolter assez d'argent pour pouvoir fêter dignement Noël avec notre centaine de personnes âgées.
Les bénévoles de l'ACAPA et ses adhérents vous attendront donc demain matin à partir de 7h dans leurs locaux du Faubourg Blanchot. La ville de Dumbéa proposera demain son rendez-vous du samedi au Big Up Spot du parc de Coutio avec un programme 100% gratuit pour tous les âges. De son côté, l'association Les Palmiers de Moiroux organise en partenariat avec la commune de Moindou l'édition 2024 de la fête du Bossu Doré. Les membres de l'association vous proposeront de nombreuses animations à partir de 8h30 sur la plage de Tanguy. Les précisions de Jana Ao, secrétaire de l'association Les Palmiers de Moiroux.
Alors on met à l'honneur le Bossu Doré parce que c'est atypique de la commune de Moindou. Ça permet bien sûr de faire connaître cette commune qui est quand même relativement discrète et petite. Donc du coup, le but, c'est de la faire connaître auprès de toute la Calédonie, de tout le monde. Et c'est principalement sur le concours de pêche. Parce que bon, ben, bien sûr, on a les grands concours de pêche qui sont pêche au gros. Et là, on va dire c'est accessible à un peu plus de monde. Donc pour que les personnes d'ici ou d'ailleurs, donc de Nouméa ou du Nord, peuvent venir pour participer à ce concours-là. Et ben, pour faire découvrir aussi un maximum de choses, parce que du coup, la plupart des stands seront tenus par les personnes de Moindou. Donc ça va leur permettre voilà, de pouvoir se développer et de se faire connaître de leurs produits.
Et la fête du Bossu Doré, c'est demain à partir de 8h30 sur la plage de Tanguy à Moindou. Du côté de Marais, la 19e édition de la fête du Vivano se déroulera à la tribu de Raux jusqu'à lundi 11 novembre. Une opération de solidarité est également organisée ce dimanche 10 novembre par les Mamans Roses en soutien aux sapeurs-pompiers. Elles seront devant Géant Sainte-Marie pour une collecte de dons pour les pompiers. Donc. Et puis le marché de l'artisanat d'art aura lieu ce dimanche, le 10 novembre, toujours de 8h30 à 15h. L'occasion de profiter de 80 stands et de participer à des ateliers créatifs, notamment pour profiter des animations exceptionnelles. L'entrée sera libre et gratuite. Et on termine avec le marché de Mamie qui se tiendra ce dimanche de 8h à midi sur la place de la mairie de Farino. Et l'agenda des sports de ce week-end, c'est avant tout du football en métropole. D'abord, la 11e journée de Ligue 1 démarre demain matin.
Avec en ouverture à 6h45, l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG au classement, qui recevra la JOCR. Dans la nuit de samedi à dimanche, Strasbourg accueillera Monaco. Les Nantais d'Antoine Comboiré iront jouer à Lens et le PSG se déplacera à Angers. Dans la nuit de dimanche à lundi, cette fois-ci, Nice affrontera Lille, puis on aura droit à un multiplex Le Havre-Reims, Montpellier-Brest et Rennes-Toulouse. Enfin, lundi matin à 6h45, le retour du derby entre l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne.
Et on parle toujours football, Jean-François, de belles rencontres à suivre sur les pelouses européennes.
En Angleterre, notamment, on notera ce derby londonien entre Chelsea 4e et Arsenal 3e. Autre derby, mais en Italie, cette fois entre la Juve et le Torino, c'est évidemment à Turin. De son côté, l'Inter de Milan recevra Naples.
On parle de rugby, pas de top 14 ce week-end puisque l'équipe de France entame sa tournée d'automne.
Et les Bleus affronteront le Japon dimanche matin à 7h10. Les Calédoniens Yoram Moefana et Peato Maovaka seront titulaires. Moefana au centre et Maovaka au talon. Antoine Dupont fait son retour à la mêlée aux côtés de Thomas Ramos qui sera demi d'ouverture et qui sera capitaine. À noter également les confrontations ce week-end entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'Australie, l'Italie et l'Argentine, mais aussi les Pays de Galles contre les Fidji et l'Écosse face à l'Afrique du Sud.
Et du tennis en métropole avec l'ATP 250 de Metz. On espère une finale 100% française.
Pourquoi pas, puisque deux Français sont en demi-finale. La nuit prochaine, Corentin Moutet sera opposé au Britannique Cameron Norrie. Benjamin Bonzi, lui, jouera contre l'Américain Alex Mikkelsen.
Un mot de tennis de table, cette fois, tout va toujours très bien pour Félix Lebrun.
Oui, le jeune pongiste récemment vainqueur du WTT champion chez lui à Montpellier est en quart de finale du WTT de Francfort en Allemagne. Il affrontera à 6h30 demain matin le Suédois Truls Moregard.
On a fait le tour des événements internationaux et nationaux en métropole. Place maintenant à l'agenda sportif du week-end sur le territoire et on parle de padel pour commencer.
La Ligue calédonienne organise dès demain matin 8h un tournoi P100 réservé aux hommes de plus de 45 ans. 16 équipes sont engagées et rentreront directement en 8e de finale. La finale est prévue pour dimanche 16h45.
Avis aux amateurs de sport en pleine nature. Maintenant, on part du côté de Bouraï.
Et au programme demain matin, la Deva VTT avec 3 parcours, 33 km et 700 mètres de dénivelé positif. 17 km et 300 mètres de dénivelé positif. Il y aura aussi la Kid Race. Enfin, ne pas manquer un trail organisé à Pau et demain soir à 17h30, la Sunset Stash, trail de 6 km où l'ambiance sera le maître mot. Tout le monde est invité à porter une moustache en soutien aux hommes touchés par le cancer de la prostate.
Et il y a du golf à suivre à Tina avec le championnat de Nouvelle-Calédonie.
Demain, dimanche et lundi, le golf de Tina accueille en effet les championnats élite, espoir et vintage hommes et dames avec pas moins de 100 participants. Les golfeurs de Tina mais aussi de Dumbea, de la Wengi et de Deva.
Et puis la fête du mini-basket, c'est demain au complexe de Lanzvata.
Et c'est la 3e édition de cette fête organisée par la Ligue de basketball de Nouvelle-Calédonie. Les enfants participeront à des ateliers ludiques et devront réaliser des défis tout au long de la journée. Les matchs de basket 3 contre 3 débuteront à 9h demain matin.
Et merci Jean-François pour ce programme sportif du week-end. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Nicolas.
Alors, cette nuit, en première partie de nuit, des averses persisteront dans un ciel nuageux sur le nord et particulièrement sur le nord-est. Puis des nuages bas accompagnés de rares averses bloqueront sur l'est. Sur les autres régions, le ciel sera bien étoilé. Sur l'ouest, le vent de secteur est moulira à moins de 10 nœuds. Ailleurs, il soufflera d'est-sud-est entre 10 et 15 nœuds en général, mais encore 15 à 20 nœuds sur le nord-est et la pointe nord. Les températures minimales stationneront entre 18 et 22 degrés. Sauf sur l'ouest et marais, où elles descendront entre 17 et 14 degrés. Demain matin, le soleil brillera largement avec quelques passages nuageux et quelques gouttes sur l'est qui se décaleront ensuite sur la chaîne. Le vent d'est-sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord. Sur l'ouest, il sera faible en début de matinée, mais avec encore des rafales en sortie de certaines vallées. Puis il s'établira au secteur sud autour de 10 nœuds, Léo.